Je suis donc Jean-Luc Durier, je suis le président de l'Union départementale de la Confédération syndicale des familles, qui est une des cinq grandes associations de locataires représentées dans le Conseil national de concertation pour l'habitat.
Moi, je m'appelle Serge Vitu, je suis cégétiste et je m'occupe avec Jean-Luc un petit peu de la commission juridique de l'UL CGT de Béthune.
Comment vous pourriez parler de l'impact de la crise pour les personnes modestes, notamment en termes de logement?
Ce qu'il faut déjà dire en entrée, si tu veux, c'est que la crise, elle a exacerbé des situations, tant au niveau de l'emploi qu'au niveau du logement, qui étaient déjà en difficulté. Des personnes étaient déjà en difficulté. On va d'abord parler de l'emploi, puisque les ressources vont effectivement avoir un impact, bien sûr, sur les capacités des personnes à payer leur loyer, par exemple. Ce qu'on a pu constater, c'est donc qu'il y a effectivement, malgré ce qu'a dit le gouvernement, il y a des licenciements, il y a des fins de contrat à durée déterminée, il y a bien entendu les intérimaires qui n'ont plus la possibilité de travailler, enfin qui n'ont pas eu en tout cas pendant longtemps, même si ça redémarre un petit peu. On a ce qu'on disait tout à l'heure, le problème des auto-entrepreneurs qui eux aussi ont vu cesser leur activité sans aucune autre possibilité d'indemnisation, même si l'État a annoncé qu'il y aurait des aides, c'est assez difficile à mobiliser. Donc on se trouve dans une situation où un grand nombre de personnes qui étaient déjà en précarité de par leur situation de l'emploi, se sont retrouvés pratiquement du jour au lendemain sans ressources. Et les aides apportées par l'État ne concernent pas toutes les personnes. Donc on a des personnes qui se trouvent exclues des dispositifs d'aide. Je disais tout à l'heure que la crise elle a exacerbé les situations. C'est le cas aussi au niveau des entreprises. On a un certain nombre d'entreprises qui vont essayer ou ont essayé de profiter de la situation sanitaire pour procéder à des licenciements. Souvent des entreprises qui étaient déjà en difficulté, qui vont profiter de cette situation de crise pour mettre fin à des contrats, même parfois des contrats à durée indéterminée. Donc on a déjà aussi, au niveau d'exacerbation un petit peu des situations, on a aussi tous les entrepreneurs voyous, et ça c'est plus, on le retrouve plus au niveau des petites entreprises, des patrons voyous qui, du jour au lendemain, décident que la loi c'est la leur et pas la loi de la République. Donc on a des situations comme ça, où du jour au lendemain, on convoque des gens leur disant ben, je ne peux plus te payer, dégage. Quasiment, on a des exemples un peu comme ça. Déjà, on a cette situation-là en entrée. Et forcément, en sortie, on a des gens qui se retrouvent sans ressources. J'étais sur la liste là, avant de venir ici. J'étais avec quelqu'un qui est au Resto du Cœur et à Saint-Vincent-de-Paul, qui disait qu'effectivement, et on constate aussi nous avec le Secours Populaire ici sur le secteur, le nombre de bénéficiaires de ces associations caritatives a explosé. En tout cas, le nombre de demandes de secours auprès des associations caritatives. Et à mon avis, c'est quelque chose qui va durer.
On va se retrouver, on a commencé déjà à avoir quelques retours de petites entreprises où, comme disait Jean-Luc, les patrons voyous décident d'imposer leurs lois. On l'a vu aussi au niveau national, baisse de salaire en contrepartie. Vous restez, ou s'il y a une baisse de salaire, si vous ne restez pas, on ferme. Donc c'est la loi de la jungle. Le code du travail est appliqué quand il est connu. Quand les gens se défendent, mais quand ils ne se défendent pas parce qu'ils ne connaissent pas, ils subissent. Et c'est la majorité des petits salaires, des petits employés, des petites entreprises, où là, le patron profite du Covid pour imposer sa loi. Et ça, nous, on va le retrouver, on commence déjà à le sentir au niveau local, à l'UL. Et je pense qu'on va avoir une vague derrière qui va faire que les prud'hommes seront de plus en plus nécessaires. Même si on pense que les prud'hommes aussi tendent à disparaître, parce qu'on commence à restreindre les droits des salariés au maximum.
On est effectivement
une période.
Dans une vague où le gouvernement donne aussi le là puisqu'il a remis en cause la durée du travail en profitant de la crise. On se pose la question des 60 heures, ou en tout cas, il y a effectivement cette autorisation pour les entreprises de faire travailler les salariés 60 heures. On voit que dans la négociation sur le financement de l'hôpital aujourd'hui, on dit, ben, écoutez, on va aider l'hôpital, mais il faudra peut-être remettre en cause les 35 heures. À l'hôpital. Donc on voit aussi qu'il y a une vague politique du gouvernement actuel sur laquelle surfent tous ces petits patrons qui n'attendent que ça. Quand ces petits patrons et ces plus gros patrons, puisqu'il y a le chantage en l'emploi, on le voit, ça concerne aussi des boîtes comme Renault.
Je vais encore signaler autre chose. Au niveau du Conseil des prud'hommes, il y a une directive nationale qui dit que le BCO sera plus obligatoire. C'est-à-dire que quand on passe au prud'homme, il y a une phase qui dit qu'on peut faire un arrangement à l'amiable. D'accord ? Donc ça prend un peu de temps, et puis après on va directement, on va en justice après. Le gouvernement a dit, le BCO, l'arrangement à l'amiable, c'est pas obligatoire, on dégage. Donc on saute, on supprime des parcours pour dire de supprimer les dossiers pour que la justice aille plus vite. Plus vite à l'avantage de qui ?
Alors on a commencé à évoquer les situations de précarité, dont le nombre explose avec cette crise sanitaire et le confinement. Dans ce cas-là, quels sont les dispositifs, quelles sont les réactions possibles, sachant qu'évidemment, ça se fait dans l'urgence.
Alors, le souci, c'est que d'abord, il y a eu effectivement des aides qui ont été annoncées par le gouvernement, mais ces aides ne concernent pas toutes les personnes. Ça exclut un certain nombre de personnes. Les aides concernent essentiellement les bénéficiaires de l'APL, pour parler des aides financières pour le logement, à condition qu'ils aient des enfants. S'il n'y a pas d'enfants, il n'y a pas d'aide. Même chose, il y a une aide concernant le RSA, pour les bénéficiaires du RSA. Mais tout le monde n'est pas bénéficiaire du RSA. Dans le parc locatif, pour parler du parc locatif HLM, on a des personnes qui sont des petits retraités, mais qui ont une retraite qui est juste au-dessus des plafonds pour bénéficier du RSA. On a un blanc un petit peu sur les personnes qui bénéficient de pensions d'invalidité. On a le souci, Serge l'évoquait tout à l'heure, des auto-entrepreneurs, qui n'ont pas forcément la possibilité de rentrer dans ces dispositifs. Donc, effectivement, il y a des aides annoncées. D'abord, elles sont minimes, 150 euros pour les bénéficiaires du RSA, 100 euros par enfant pour les bénéficiaires de l'APL. Mais ça n'est qu'une petite rustine sur la grosse fuite au niveau des revenus. Donc là-dessus, au niveau des bailleurs HLM, il y a des négociations qui ont été portées au niveau national. De mon point de vue, elles ne sont pas suffisantes et elles ne font que reporter les difficultés, puisqu'il s'agit de mettre en place d'une part un moratoire, c'est-à-dire des délais de paiement, donc des échéanciers, mais dans 3 mois, dans 6 mois, les personnes qui sont aujourd'hui en difficulté ne seront pas moins en difficulté qu'aujourd'hui. Et d'autre part, ces aides vont reposer sur les capacités à mobiliser des fonds publics comme le FSL, mais sachant qu'actuellement, les administrations qui sont en charge des aides, que ce soit les CCAS dans les mairies, quand ils font leur boulot, parce que ce n'est pas toujours le cas, que ce soit les maisons départementales de la solidarité, c'est assez compliqué pour les joindre, ou la maison départementale pour les personnes handicapées. Donc ça suppose effectivement qu'il y ait des aides qui soient parfois rapides. Et on est quand même, on l'a évoqué à plusieurs reprises au niveau sanitaire, on est quand même dans une lourdeur administrative aujourd'hui qui ne permet pas aux gens de faire face à leurs besoins immédiats. D'où d'ailleurs les recours aux associations caritatives.
Moi je pense que les aides pour tous, c'est un effet d'annonce, alors que derrière il y a beaucoup de mesures restrictives et sélectives, qui fait que le volume global des aides, ça ne peut être pas attribué à tout le monde, quoi. À ceux qui en ont vraiment besoin.
Les aides également, on peut en parler en direction des entreprises. On voit, on a quand même des contacts avec des petites structures d'entreprises qui nous disent que c'est très compliqué pour bénéficier, mobiliser les aides. Quand il y a des salariés, le chômage partiel, Bon, ça a été quand même relativement facile, entre guillemets, de le mobiliser, mais ça a été long pour avoir les fonds. Après, les prêts bancaires, n'en parlons pas. De toute façon, c'est un peu comme les moratoires. Les prêts bancaires, ça reporte la crise sur l'avenir. Et une entreprise qui est en difficulté aujourd'hui, qui va avoir des intérêts à payer ou des remboursements de prêts à payer dans 6 mois, dans 1 an, je ne sais pas si elle sera en capacité de le faire. Donc il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui hésitent à mobiliser ces aides en se disant, mais de toute façon, je ne suis pas sûr de pouvoir les rembourser ultérieurement.
Les indicateurs socio-économiques sont dans le rouge. Je prends deux exemples. 20% de la population a vu son revenu chuter. Et uniquement pour le mois de mars, le nombre de chômeurs a grimpé de 7%. Malgré le déconfinement, on sait que la crise économique est devant nous. En fait, il y a une espèce de bombe à retardement et un manque, en tout cas, de dispositifs et de moyens qui sont mis en œuvre pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. On commence à voir ici et là des groupes d'auto-organisation populaires et il y a aussi des appels à la grève des loyers. On sent aussi qu'il y a un besoin ou une tendance à faire face collectivement, à ce que les gens ne se retrouvent pas dans cette situation de précarité seuls, qu'il va falloir s'organiser en quelque sorte pour lutter.
On est dans une situation où le gouvernement, je pense, n'a pas pris la mesure de ce qui est à venir. On était déjà, pour parler des difficultés de paiement des loyers, on était déjà dans le secteur, et notamment sur le secteur de Bruay, pour prendre cet exemple, dans un taux d'impayé au niveau des bailleurs HLM qui était record. Il est évident qu'avec la crise, ce taux d'impayé va encore augmenter. Sur le logement, la vraie question, c'est quels choix politiques sont faits en matière de logement HLM. Je préfère utiliser le mot HLM que le terme de logement social, qui est souvent dévalorisé. Donc, en matière de logement à bas coût, à loyer à bas coût, on n'a plus la même politique depuis des années, puisque au départ, c'était une politique d'aide à la pierre, et puis on a transformé cette politique en disant on va moins aider la construction de logements, et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des conséquences en matière de déficit de logement, et on va financer, on va aider les locataires sous la forme d'allocation logement ou d'APL, on va financer le logement par cette méthode-là. On va sécuriser au niveau des bailleurs le paiement des loyers parce qu'il y aura une prise en charge par d'une partie de ces loyers par la collectivité locale, c'est-à-dire la CAF. Et derrière, en fait, la CAF, c'est le département et l'État. Mais on ne se pose pas la question, la vraie question du logement HLM. C'est-à-dire que le logement est toujours aujourd'hui considéré comme un marché. Tant qu'on aura cette logique financière, tant qu'on aura cette logique où on considère que le logement est un marché, à partir de ce moment-là, on ne mettra pas en œuvre les vraies solutions. Et aujourd'hui, la question devrait être plus largement portée, je dirais, de la construction, de la rénovation thermique ici dans la région, des logements qui sont souvent encore chers, même si c'est des logements HLM, par rapport aux prestations qui sont données. Donc la vraie question, c'est aujourd'hui, quelle politique de logement doit-on mener ? Alors, je vais citer des classiques, je crois que c'est Engels qui a sorti un petit opuscule qui s'appelle « La question du logement ». Et la réponse de Engels, c'est de dire « Il n'y a pas de réponse en matière de logement dans le système capitaliste ». C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit dans un système de socialisation du logement. Et la vraie réponse, à mon avis, elle est là. Ça veut dire effectivement peut-être qu'on fasse en sorte que les locataires, déjà dans un premier temps, comme tu le disais, se regroupent, s'organisent, se créent des groupements de locataires, se donnent les moyens d'intervenir. C'est pas simple parce que tout dans le système a été mis en place pour que chacun fasse sa petite sauce soi-même et se renferme sur ses problèmes. Mais effectivement, pour ma part, je pense que la vraie démarche, la vraie réponse à tout ça, c'est une démarche collective au niveau des locataires et au niveau des politiques également, qu'on reprenne de façon drastique depuis le début cette question du logement en disant le logement n'est pas un marché, n'est pas une marchandise, c'est un droit, c'est une obligation de loger les gens et il faut qu'on y réponde de façon sociale. Mais sociale au sens de socialiser, hein, c'est-à-dire pas de l'aide sociale.
Au niveau des logements, on voit que depuis quelque temps, par exemple, le livret A a baissé son taux d'intérêt. Le livret A, c'était au départ un livret qui permettait de faire, d'investir dans le bâtiment, dans les logements sociaux, hein, et on baisse le taux d'intérêt. Ce qui fait que les gens investissent moins dans le livret A, donc il y a moins de logements sociaux. On est d'accord, c'est classique. Pourquoi les politiques ne revalorisent-ils pas, eux, le livret A pour être attractif et avoir des moyens derrière pour aménager les logements sociaux, qualité, par rapport aux l'isolation, l'accueil des gens, avoir plus de logements sociaux, requalifier tous les logements, logements des mines, par exemple. Toutes ces maisons-là peuvent être requalifiées. Il y en a beaucoup, ils sont avec des parpaings devant, aux fenêtres, c'est fermé, ils ne servent plus à rien. Ces logements peuvent être requalifiés à moindre coût parce qu'ils existent. Ils ont l'électricité, il y a le courant, il y a le tout à l'égout. Il suffit simplement de requalifier cette maison, l'isoler. Livret A peut servir à ça. Et ça permettrait d'avoir une maison bien isolée avec moins de chauffage à payer, moins de consommation. Moins de consommation, c'est un salaire. Si le salaire est un peu moindre que celui d'à côté, ça leur permet de vivre complètement et décemment.
Toujours sur la question du logement, il va se poser la question des expulsions. La fin de la trêve hivernale a été reportée vu qu'elle tombait en plein pendant le confinement. Il va y avoir un moment donné où cette trêve va être levée. Les organisations revendiquent un certain nombre de mesures, dont un moratoire sur les expulsions. Donc est-ce qu'on peut parler de ça et de l'ensemble de ces mesures ?
Alors, avant de parler des expulsions, il y a toutes les procédures qui sont relancées actuellement, tant par les bailleurs que par les organismes tels que les huissiers, les sociétés de recouvrement, qui effectivement ont repris ou menacent en tout cas de reprendre des poursuites contre les locataires, qui sont souvent, le terme utilisé c'est de mauvaise foi. J'ai un dossier sous les yeux là qui passe au tribunal demain. Le locataire n'est pas de mauvaise foi, il est tout simplement en difficulté financière et chaque fois qu'il peut payer, il va payer parce qu'il sait très bien que c'est important pour lui de garder son logement. On est dans une situation, effectivement, où on nous parle de cette fameuse charte-là, où les bailleurs s'engagent à trouver des solutions individualisées pour aider les personnes en difficulté, etc. Moi, j'y crois pas trop. Je le dis comme je le pense. Je n'y crois pas trop au vu des pratiques qui se font, qui se faisaient déjà bien avant la crise. Et on a notamment des bailleurs, ici, sur le secteur, qui sont spécialistes des demandes d'expulsion, des demandes d'assignation au tribunal, etc. Je ne vais pas le citer, ces maisons sont citées, notamment sur l'agence de Bruet. Hein, on est vraiment en difficulté avec ce secteur de Bruet au niveau de maisons citées. On a tout un travail à faire par rapport à cette pression juridique. Parce qu'il faut effectivement pouvoir faire face, mais c'est énormément de travail à chaque fois. Pour un dossier, c'est énormément de travail. Et en même temps, là je parle comme Macron en disant en même temps, on est aussi sur à nouveau de l'individualisation. Or, ce que nous pensons, c'est qu'il faut répondre globalement au problème. Et c'est pour ça qu'au niveau de la CSF, bien que ma confédération au niveau national ait accepté de signer la charte de l'USH, l'USH, c'est l'Union sociale pour l'habitat, c'est l'ensemble des bailleurs qui sont dans le secteur HLM. Donc il y a à la fois des bailleurs publics et des bailleurs privés. Sous forme de SA, pour ne citer que des SA sur le coin, Maison et Cité, SIA, Habitat Hauts-de-France, tout ça c'est des bailleurs privés. Donc qui ont besoin de faire des bénéfices aussi, il ne faut pas l'oublier. Et donc c'est cette globalisation, pour moi, elle passe par une gratuité des loyers. Alors ça revient un petit peu à ce que tu évoquais à propos de la grève des loyers. Hein, effectivement, pourquoi pas, mais c'est très difficile à acter une grève des loyers hein, au niveau des locataires. Il y a un manque de, pour l'instant, il y a un manque de conscience collective qui est jour hein, au niveau du logement. C'est souvent une affaire individuelle, le logement. Or, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il faut qu'on arrive à remobiliser collectivement les locataires et que ça soit une réponse globale qui soit faite et non pas une réponse individuelle. Et l'intérêt de réclamer, on est en train de préparer une pétition pour réclamer cette gratuité de 3 mois de loyer au niveau des bailleurs publics. On a des arguments d'ailleurs hein, pour pouvoir le faire, pas seulement public d'ailleurs, des bailleurs HLM. On a des arguments pour pouvoir le faire. Et ça serait une réponse globale et non plus une réponse individualisée. Hein, c'est dans ce sens-là qu'on veut mettre en œuvre cette pétition. Alors, je dis on a des arguments. Ben oui, parce que pas tous, mais une partie des bailleurs a mis une partie de son personnel en chômage technique. Donc ça veut dire que c'est l'État qui a pris en charge les salaires et qui n'ont pas payé de salaire ni de cotisation sociale sur cette partie-là. D'autre part, pendant le confinement, les travaux ont été stoppés. Donc il n'y a pas eu de facturation de travaux, que ce soit des travaux de construction, de rénovation, de réhabilitation, ou d'intervention, au niveau des sous-traitants de ces bailleurs. Ils n'ont pas eu à payer de facture. Et troisièmement, les contrats d'entretien ont vraiment été réalisés au minimum, hein, c'est-à-dire qu'ils sont intervenus uniquement quand il y avait des urgences, et encore, ce n'était pas toujours évident. Et donc, bien entendu, je fais confiance aussi à nos bailleurs pour renégocier avec les sociétés sous-traitantes les contrats d'entretien qui n'ont pas été effectués. Donc ils ont gagné de l'argent, entre guillemets. Ils n'ont pas perdu d'argent, en tout cas, sur une partie de leur activité. Et ils demandent, par contre, aux locataires de payer plein pot. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Tout à l'heure, on évoquait le marché, entre guillemets, du logement. Il est évident que le système capitaliste mondial a tout intérêt à mettre en péril le logement collectif tel qu'on l'a avec le système HLM en France. J'en prends pour preuve les directives européennes hein, qui ont tendance à dire qu'effectivement, il faut laisser au privé le marché du logement et que l'État doit intervenir le moins possible. On parle effectivement des élus, Serge parlait des élus, se pose aussi la question des directives de la Commission européenne. Et là-dessus, encore une fois, ce ne sont pas des élus, hein, c'est bien l'émanation des représentants du système financier mondial qui sont aux commandes à Bruxelles. Donc il faut qu'on ait un travail aussi qui soit vraiment politique, non pas au sens de politique politicienne, mais au sens de réflexion sur la vie globale, pour dire à Bruxelles, notre marché du logement, enfin notre marché du logement, notre système du logement en France n'est pas celui que vous voudriez imposer, tel qu'on en voit les dégâts, par exemple en Allemagne, où ça devient catastrophique de pouvoir se loger, par exemple sur Berlin ou dans d'autres régions qui sont en tension de logement.
Rétrospectivement, on était dans une réforme globale du système social et je prends pour exemple, parce que c'est en lien avec le sujet, la réforme de l'assurance chômage. En fait, on a quand même beaucoup de mal, vu le cours, vu la trame que dessine ce gouvernement-là, imaginer qu'il mette en place des quelconques mesures. Vous, qu'est-ce que vous pensez en termes d'organisation collective, de lutte et de revendication?
La réponse est dans ta question. On ne peut pas compter sur ce gouvernement-là pour faire une autre politique. Si, lors de la première intervention de Macron, on a pensé qu'il avait été touché par un miracle et qu'il était d'un seul coup basculé dans le socialisme, on voit bien que toutes les réponses qui ont été apportées et qui continuent à être apportées, et on le voit aussi au niveau de la santé, hein, ce que je disais tout à l'heure, on veut bien réformer mais il faut changer le temps de travail, on voit bien que toutes les réformes qui sont mises en place ou toutes les aides qui sont mises en place ne vont pas remettre en cause fondamentalement le système. Aujourd'hui, pour nous, CSF, il me semble indispensable qu'on arrive à mobiliser les locataires. C'est pour ça que notre action, elle se fait dans les commissions de concertation locative, dans les conseils d'administration, mais la première réponse qu'on doit avoir, elle doit être sur le terrain, C'est pour ça qu'on va faire plutôt une pétition pour expliquer, mobiliser les gens, etc. C'est une première démarche qui nous permet d'expliquer, de faire comprendre à la population que ça passe par un engagement de chacun et de tous pour que on changera. Le monde d'après ne va pas changer comme ça, au contraire. Je ne sais plus qui disait qu'il serait certainement le même et en pire. Et si on veut qu'effectivement il y ait un changement, je ne sais pas si tu as vu la plateforme qu'ont signé les 350 organisations sur le monde d'après, avec un programme qui ressemble à celui du Conseil national de la résistance de 1945. Ce monde d'après, il est entre nos mains, il est entre les mains de tous, et c'est maintenant qu'il faut que les gens se mobilisent. Alors, c'est compliqué quand on est dans les difficultés, c'est compliqué quand on court après les sous pour pouvoir payer son loyer, son électricité, à manger aux enfants, etc. C'est encore plus compliqué avec la situation sanitaire, parce qu'on ne peut pas, faire d'aussi grands rassemblements qu'on le souhaiterait. Mais, de mon point de vue, c'est effectivement la seule entrée possible dans une action, ça sera une action collective.
Les effets du Covid, là, les 3 mois qu'on vient de traverser, auront permis à certains de prendre le temps de se poser, de réfléchir sur et de prioriser les choses qui les entourent et qui leur fait vivre. Prioriser, ça veut dire avoir un toit, avoir à manger et être en bonne santé. Maintenant, ils sont plus intéressés par rapport à l'esprit liberté. Mais la liberté, quand tu n'as pas à manger, que tu n'as pas de toit et que tu n'as pas de santé, ça veut dire que tu es SDF. C'est pas l'objectif que je voudrais voir pour mes enfants, pour mes amis et tous ceux qui, un jour ou l'autre, sont dans la difficulté. On doit être solidaire. Et une seule chose dans la vie ne peut faire avancer les choses, c'est la solidarité. Alors l'argent, je pense que c'est un moyen de parvenir au bonheur. C'est pas forcément nécessaire.
Quand même, une hausse du SMIC, ça pourrait être une des premières revendications.
Oui, ça
peut parce qu'on n'a pas, évoqué au moins quelques revendications.
Alors la hausse du SMIC, moi je suis d'accord, tout à fait d'accord. La hausse du SMIC, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est le reste à vivre. Parce qu'on peut très bien dire, voilà, aujourd'hui, on vous met le SMIC à 1800 euros, d'accord. Et si on vous augmente vos charges, on vous augmente le prix de la voiture, le prix du gasoil, le prix des loyers, ça sert à quoi? À rien. Je parle pas du SMIC. D'accord, la CGT, était pour 1800 euros, était un moment. Moi, je dis, qu'est-ce qui me reste à vivre? C'est-à-dire que quand j'ai payé mon loyer, mes mutuelles, parce que maintenant on est obligé de passer par une mutuelle pour être correctement soigné, pratiquement. Avant, avec le Conseil national de la résistance et la sécurité sociale, payait tout, on n'avait pas besoin de mutuelle, on était aussi bien soigné. Maintenant, on est obligé de passer par une mutuelle qui coûte combien? Allez, 100 euros, 150 euros, 200 euros. Ben, c'est un coût supplémentaire. Donc tous ces coûts-là, c'est pas le SMIC, on peut le mettre à 3000 euros. Hein. Si la mutuelle coûte 300 euros par mois, on peut le mettre à 4000 euros, ça ne va rien changer. C'est quoi le reste à vivre et comment moi, avec mes enfants, je peux, à la fin du mois, comme tout le monde, aller me faire un cinéma, aller faire un restaurant, faire tourner une économie et en même temps me faire plaisir.
Le terme reste à vivre est important. Il y a une différence entre pouvoir d'achat et reste à vivre, c'est une différence idéologique. Pouvoir d'achat, ça me transforme en consommateur. Donc on peut toujours effectivement revendiquer d'avoir plus de pouvoir d'achat. Reste à vivre, ça veut dire effectivement, je fais face en tant que citoyen à toutes mes charges, à toutes mes obligations. C'est aussi important de pouvoir, je dirais, de soi-même, sans avoir recours à des aides, de pouvoir effectivement faire face à ces dépenses. Et en même temps, comme le disait Serge, il me reste de quoi nourrir ma famille, de quoi nourrir mes enfants. La culture, hein, c'est pas seulement se faire plaisir, c'est la culture aussi. Et on a dit effectivement la société de demain, l'après-Covid, ça sera plus tout à fait la même chose. Ça sera plus tout à fait la même chose. Si on remet en cause le système consumériste, c'est un changement de mentalité qu'il faut qu'on travaille. On peut y arriver. Il y a des choses, effectivement, la crise a été révélatrice à ce niveau-là, mais c'est pas gagné. C'est un engagement de tous les jours, et bon, nous, c'est ce qu'on essaie de faire, tant au niveau de la conscience des salariés ou des privés d'emploi qu'au niveau de la conscience des locataires.
J'ose espérer qu'il y a eu une prise de conscience pendant ces derniers mois et que les gens vont réagir de façon intelligente. Hein, l'union fait la force, en Belgique c'est ce qu'ils disent. En France on devrait prendre un peu exemple là-dessus. Hein, l'union fait la force, voilà.